Bonjour chers élèves, aujourd'hui un dernier cours du français niveau débutant. Dernier cours, oui, parce que la semaine prochaine, la semaine du 23, du lundi 23 jusqu'au samedi 28 mai, ça sera la période des examens. D'accord? Examen de juin, des sessions qui correspondent au quid pour vous ici à Bruxelles, où vous savez que vous devez passer les examens soit le jeudi 26 l'après-midi ou soit le 28 la matinée. D'accord? Donc, comme je vous l'ai répété il y a déjà la semaine passée et même avant, il faut que vous m'envoyiez, s'il vous plaît, un email à mon adresse. Vous connaissez mon adresse, tutorias.frances@bruxelles.be. Pour me dire si vous venez le jeudi 26 ou si vous venez le samedi 28. Vu que le samedi 28, c'est la période juste des examens de réserva, il faut que vous me disiez à quelle heure vous venez. D'accord? Merci. Bien, j'explique alors maintenant en espagnol pour les personnes qui n'ont pas cru. Hoy, última clase de francés. Última clase en el cual vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto. Es importante ya que la próxima semana es el periodo de exámenes de junio, que comienza el lunes 23 hasta el sábado 28 de mayo. Para francés, para el examen de francés, al menos va a ser el día jueves 26 en la tarde y el sábado en la mañana. Le he dicho y le he repetido a la semana pasada y antes también que deben hacerme llegar, por favor, un correo para decir qué día viene. Si es el jueves 26 por la tarde o si es el sábado por la mañana. Ya que si es el sábado 28, me tienen que mandar ese correo diciéndome que usted viene en ese día, ya que yo tengo que pedir aquí a la secretaría que le dejen un cupo, una vacante, digamos, para que puedan venir a dar ese examen, ya que en la sala de Bruselas ese día hay mucha gente, entonces tienen que dejar, dicho de antemano, con antelación, que usted viene ese día para que le dejemos una silla, digamos, para dar el examen, ¿ya? Mi correo es fácil, dice tutoria.frances@bruselas.uned.es. A ese correo me tienen que, por favor, mandar la solicitud si usted viene el día jueves o a su vez el día sábado. ¿Ya? Voilà. Bueno. Para la gente que ya lo hizo, ça va. Para los que mandaron el correo. Para lo otro, por favor, dígame con la anticipación. Bien. Faisons un récapitulatif. On va reprendre de l'unité 1. Unité 1, page. Voilà, l'unité 1, page 1, nous avions donc commencé avec le dialogue. Donc, il n'y a pas de problème. Dialogue que nous avons lu ensemble. Je passe rapidement. Donc, nous avons vu les nationalités, belge, suisse, espagnol, canadien, canadienne, française, suisse. Nous avions commencé à voir la prononciation phonologique. Donc, nous avions vu la différence entre le E, la E, hein, et puis nous avons vu la E. Mais ici, la E et la E. E, E. D'accord? Ça va? Vous avez bien la différence là? La E. Voilà, ici, hein, la E. phonétiquement s'écrit comme un E à l'envers, mais qui s'écrit avec un E comme ceci. On ne le prononce pas, généralement, on ne prononce pas en fin de mot, mais s'il se prononce quand il commence. Hein, comme regard, sera, hein, et quand il y a juste une syllabe, comme le, ne, me, ce, de, que, bon, voilà. Quand c'est une syllabe, le E se prononce, d'accord? Quand c'est le E, comme dans la deuxième partie ici, donc le E s'écrit avec un E phonologiquement, un E comme ceci, et peut être écrit comme un ER, E accent aigu, EZ ou ES. Clé, étage, les, des, c'est, d'accord? Ou manger, quand vous dites manger, la terminaison ER, manger, c'est bien E. D'accord? Donc, voilà quelques exemples. Nous allons faire ça un peu vite, hein, pour voir toutes les possibilités. Après, la différence entre la I, U, U. Mais plus que la I, parce que la I se ressemble beaucoup en espagnol à la I en français, ce que nous avons fait, c'est la différence entre la U, qui est de projection de lèvres vers l'avant, U, et la U, qui est la dernière. D'accord? La différence entre la U, qui phonétiquement est comme ça, et la OU phonétique. D'accord? Donc la U correspond graphiquement, quand on l'écrit, à l'écrit. C'est un U, suis, suisse, une, d'accord? Nuit, d'accord? Voilà. Donc je marquais bien que c'était les lèvres projetées vers l'avant. D'accord? L'importance de bien projeter les lèvres vers l'avant. Les lèvres, hein. D'accord? Avec la OU, ça correspond à l'écrit O, OU, O, U, peut-on? O, U, bonjour, vous, double, pour. D'accord? O, U. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de projection des lèvres vers l'avant, il y a seulement un son qui est guttural, ça vient de la gorge. Donc, vous sentez que vos cordes vocales vibrent. Bonjour, vous, double, pour. Vous sentez que les cordes vocales vibrent. D'accord? Ça veut dire que vous prononcez bien le ou. L'autre, la u, se fait seulement avec les lèvres. De la bouche vers l'avant. U. D'accord? La différence, c'est que l'autre se fait à partir de la gorge, tandis que la U se fait seulement à partir de la bouche avec les lèvres. C'est clair? Après, nous sommes passés à voir la partie grammaticale. Dans la partie grammaticale, nous avons vu, enfin, les verbes être au présent. Les deux verbes les plus utilisés en français, ce sont le verbe être et avoir. D'accord? Ce sont ce qu'on appelle des verbes auxiliaires. D'accord? Donc, comme ce sont des verbes auxiliaires, ce sont les verbes qu'on utilise le plus souvent pour conjuguer. On les conjugue souvent. Donc, il faut les connaître. Être, ser o estar, hein? C'est bien la traduction en espagnol, ser o estar. Ça dépend du contexte. Et je le peux le conjuguer à la forme affirmative. Je vais mettre en vert. Donc voilà, forme affirmative. D'accord? Affirmative. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. D'accord? Vous devez apprendre ça par cœur. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ça va? Quand je fais la forme négative, négative ici. Là. Donc, qu'est-ce que je fais? L'utilisation d'un adverbe négatif. Adverbe de négation. D'accord? Quel est l'adverbe de négation le plus utilisé en français? Vous l'avez ici. Le ne, petit point, pas. Ou le n, apostrophe, petit point, pas. Qu'est-ce que je fais avec les petits points? C'est le verbe. Le verbe va juste au milieu. L'adverbe de négation, ne pas, va autour du verbe. D'accord? Donc, si je veux dire la négation avec le verbe être, je dirais je ne suis pas. Tu N apostrophe est pas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une voyelle. La est, tu es, c'est une voyelle. Donc, le E tombe et ça devient une apostrophe. D'accord? Tu n'es pas. Il n'est pas. Nous ne sommes pas. Là, il n'y a pas de problème puisque le somme commence avec une consonne. Donc, la consonne S. Donc, il n'y a pas de problème pour la E. On met bien ne sommes pas. Vous n'êtes pas. Là, encore une fois, il y a un être. Donc, un E, il y a une voyelle. Quand il y a une voyelle, le E tombe et ça devient une apostrophe. Vous n'êtes pas et ils ne sont pas. D'accord? Ici, il n'y a pas de problème. Vous faites seulement le ne, puisque ça commence le son par une consonne. Ça va? Enfin. 3, quand vous utilisez la forme interrogative. Et ici, nous avons vu qu'il y avait 3 manières de faire l'interrogation, de poser des questions. Il y a 3 manières ou possibilités de poser des questions. 1, l'inversion sujet-verbe. 1, inversion sujet-verbe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On change. Le sujet va derrière, le verbe va devant. Exemple, Paul joue à la balle. Joue Paul à la balle, par exemple. Ça va? En outre, nous regardons la télévision. Regardons-nous la télévision. D'accord? Donc, inversion, sujet, verbe. Ça va? Ça, c'est la plus facile. La 2. Utilisation d'un mot interrogatif. 2. Là. Si ça, c'est le 1, inversion, 2. Mot interrogatif. Les mots interrogatifs, ce sont tous les mots qui font référence à un petit élément qui peut être un adverbe ou un pronom interrogatif. D'accord? Pour ça, on appelle les mots interrogatifs. Qui, que, combien, pourquoi, comment, de quoi, de qui, et autres. Quel aussi. Ça va? Tout ça, ce sont des éléments des mots interrogatifs, d'accord? Les plus faciles. Qui es-tu? Que fais-tu? Où habites-tu? D'accord? Là, je mets un élément, un mot interrogatif au début, et puis je fais la phrase en faisant l'inversion sujet-verbe. Avec les mots interrogatifs, il faut faire inversion sujet-verbe. D'accord? Qui es-tu? J'ai pas dit qui tu es. J'ai dit qui es-tu? Que fais-tu? Donc, que fait le verbe, et puis tu le sujet. Donc, il y a inversion sujet-verbe. Où habites-tu? J'ai dit. Où, le mot interrogatif, habite, c'est le verbe, tu, c'est le sujet. Donc, il y a toujours inversion sujet-verbe. Ça va? Généralement, on le fait comme ça. Maintenant, il y a aussi un autre mot interrogatif qui est le est-ce que, qui est ici. Est-ce que ou est-ce que, avec une élision là. Ça va? Donc, est-ce que ou est-ce que? Ça aussi, on peut l'utiliser pour poser des questions. Quand j'utilise est-ce que ou est-ce qu'il, je ne dois pas faire inversion sujet-verbe. Il n'y a pas d'inversion sujet-verbe. Directement, c'est la phrase. Est-ce que tu manges? Point d'interrogation. Est-ce que tu étudies? Point d'interrogation. Est-ce que Paul aime voyager? Point d'interrogation. Ça va? Donc le est-ce que, et puis sujet, verbe, et le reste, complément. D'accord? Il n'y a pas d'inversion là. Ici, il y a bien une inversion sujet, verbe. D'accord? Il y a bien une inversion. Ça va? Tandis qu'ici, c'est sujet, verbe. Normal. Ça va? Troisième manière de poser des questions ici, trois. Utilisation de l'intonation montante. Il est bien écrit. Utilisation de l'intonation montante. Montant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux poser une question en faisant une intonation montante à la fin. Exemple. Tu manges ta tartine. D'accord? Tu manges ta tartine. J'oblige. C'est bien clair. Tu manges ta tartine. C'est une affirmation. Je suis en train de dire que tu manges ta tartine. D'accord? Tu manges ta tartine, tu manges ta pizza. Ça peut être, voilà, pour que vous compreniez mieux. Tu manges ta pizza. Hein? Tu manges ta pizza. Je suis en train de dire, je suis pas en train de poser une question. Tu manges ta pizza. Je vois que quelqu'un est en train de manger une pizza. Mais, si je dis, tu manges ta pizza? Tu manges ta pizza? La fin, je monte. Alors là, c'est une question. D'accord? C'est une question. Et alors, je dois répondre, oui, je vais manger ma pizza. Non, je ne vais pas manger la pizza. Par exemple, hein, c'est un exemple. Donc, tu manges ta pizza, si je maintiens l'intonation normale, ce n'est pas une question, c'est juste une affirmation, quelque chose que je suis en train de dire. Tandis que si je fais, tu manges ta pizza, là, c'est une question. D'accord? C'est la manière la plus difficile de poser une question. Surtout au point de vue de la communication orale, quand on pose, puisque c'est difficile de bien comprendre si c'est une question ou pas, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vous conseille? D'utiliser l'inversion sujet-verbe ou l'utilisation des mots interrogatifs. Ça va? Surtout pour l'examen. Ici. On a vu les déterminants articles définis. Vous devez savoir quels sont les déterminants articles définis. Le pour le masculin, la pour le féminin, les pour les masculins et féminins pluriels. Attention, il y a le L apostrophe aussi, hein, qui est devant une voyelle ou un H muet, tant au masculin comme au féminin, il faut mettre un L apostrophe. D'accord? Ça, plus ou moins, vous devriez le savoir. C'est pas le savoir, c'est seulement l'utiliser. D'accord? Ici, utilisation des mots, des nombres, ah, l'utilisation des, du pluriel. Le pluriel, comment fonctionne-t-on avec le pluriel et comment utilise-t-on après le masculin et le féminin? D'abord, ce qui est du singulier et pluriel. Bien sûr, quand on met au pluriel, vous savez que ce qu'il faut faire, c'est souvent. Souvent, ce qu'il faut faire, c'est mettre un S à la fin d'un mot. Donc, exemple, les passeports, les chambres, les jeunes. D'accord? Ici. Mais attention, il y en a certains qui ne changent pas, qui sont invariables. Exemple, invariable. Ça va? Quels sont les invariables? Certains mots qui terminent en quoi? Quand le mot termine en S, en X et en Z, il ne faut pas ajouter de S. D'accord? Ils sont invariables. Ça va? Ça veut dire qu'on n'ajoute pas de S. Il reste tel quel. Quand il termine avec un S, un X ou un Z. Exemple. Les pays, pays c'est qui avec un S, les pays. On n'ajoute pas un autre S. Les Français, qui termine avec un S, les Français, on maintient tel quel. On ne met pas un autre S. D'accord? Fax, fax, pas de S final. Et les nés, qui termine avec Z, les nés, on ne met pas de S, on maintient le Z. D'accord? Attention, il y en a certains qui changent complètement. Exemple, il y a certains mots qui changent au pluriel complètement. Monsieur devient messieurs avec un S. Madame, mesdames. Et mademoiselle, mesdemoiselles. D'accord? Ça va, le mot change complètement. L'utilisation du masculin au féminin. Pour faire le féminin, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez ajouter au mot la terminaison. Quel type de terminaison, vous savez? Seulement maintenant, vous savez, vous devez mettre un E. Généralement un E. D'accord? On va passer à l'autre page. Voilà. On ajoute un E au masculin. Donc, espagnol, espagnol, le. Français, français, the. Anglais, anglais, the. Marocain, marocain, ne. Par exemple, on ajoute un E. Parfois, il faut ajouter une autre consonne. D'accord? Comme canadien, canadienne. Il faut ajouter un E, double N, E. Italien, italienne, double N, E. D'accord? Dans certains cas, il faut pas, il change pas. Il faut pas mettre un autre E. Comme par exemple, belge. Un Belge, une Belge. On va pas ajouter un autre E. C'est un Belge, une Belge, c'est tout. Un Suisse, une Suisse. Un fonctionnaire, une fonctionnaire. Et un interprète, une interprète. D'accord? Ça ne change pas. On n'ajoute pas un autre E. On le maintient, c'est tout. Mais il faut faire attention que dans certains cas, il y a un changement complet, comme on peut le voir ici. D'accord? Si ça termine en heure, normalement ça pourrait être en trice, traducteur, traductrice, d'accord? Acteur, actrice, voilà. Mais dans certains cas, ça change avec A-I-N, ça devient I-N-E. Copain, copine. Ça va? Et enfin, il y a certains mots qui changent complètement. Le roi, le féminin, on ne dit pas le roi E, on dit reine. Monsieur, on ne dit pas monsieur re, on dira madame. Donc ça change complètement. Ça va? Voilà. Et puis commence déjà les exercices, ça, il n'y a pas de problème. Passons à la page de l'unité numéro 2. Là, il n'y a rien du tout, donc ça va. Dialogue, il n'y a pas de problème. Travail phonologique, ici, la différence entre la an et la une. On a vu la an, un an. Donc, travail phonologique, la différence entre an, un, rappeler. Ce sont trois voyelles nasales, d'accord? Donc là, il ne devrait pas avoir de problème pour vous. Enfin, pas de problème. Normalement, vous devriez avoir un peu travaillé dessus. Donc la anse c'est souvent retrouvée avec une écrit. À la partie écrite en EN ou EM ou AN ou AM. D'accord? Donc, enfant, pendant, dans, chambre, voilà. Ça correspond à en. Une prononciation ouverte. En. D'accord? Vous ouvrez la bouche, la respiration, disons, l'air sort par la bouche et par le nez. C'est clair? Pour celui-ci. La 1 est beaucoup plus aiguë. D'accord? Donc ça, c'est une terminaison plutôt AIN, IN. D'accord? AIN, IN. Souvent, on va le retrouver dans ce style de terminaison. D'accord? Comme fin, pain, lin, sain. D'accord? Généralement, je dis pas que c'est tout le temps, mais généralement, c'est comme ça. Enfin. C'est la plus aiguë, hein. Un. Enfin, la on, c'est une terminaison plutôt on avec la bouche qui forme un rond, on. Donc, terminaison on ou terminaison om. Comme bon, bonbon, salon, concubinage, montagne, voilà, pour vous donner quelques exemples. Ça va? J'espère vous rappeler. Passons à la page suivante. 6. Donc, la différence ici, où on a fait le verbe avoir. Avons travaillé le verbe avoir, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Au présent, l'utilisation du présent, rappelez-vous, on a dit que les deux verbes les plus utilisés en français sont le verbe être et avoir. Nous avons vu le être, maintenant nous voyons l'avoir. L'avoir au présent, à la forme affirmative, la traduction tener o haber, haber o tener, et j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. D'accord? Ça, il faut l'apprendre par cœur. D'accord? Par cœur, de memoria, par cœur. Comme à l'être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. L'avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Clair, il faut le savoir par cœur. N'oubliez pas, ce sont des verbes auxiliaires, il faut les apprendre par cœur. Quand on l'utilise à la forme négative, d'accord, là j'utilise alors le ne. Le verbe est pas. Ça va? Ou n apostrophe. Si, ça commence par une voyelle, le verbe. Donc, ici, je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, ils n'ont pas. D'accord? Ici, ce sera toujours avec la n apostrophe, puisque le verbe commence par une voyelle. Dès qu'elle commence par une voyelle, n apostrophe. D'accord? Ça, vous devriez le savoir sans aucun problème. On continue. L'utilisation de la forme interrogative est-ce que, quand j'utilise le est-ce que, vous rappelez, si j'utilise ceci, alors, d'accord? Ce que je fais, c'est que la forme doit être sujet-verbe. D'accord? Est-ce que j'ai, est-ce que tu as, est-ce qu'il a, est-ce que nous avons, est-ce que vous avez, est-ce qu'ils ont? Voilà. Facile. Vous voyez? Voilà, avec quelques exercices, l'utilisation ici de nous. Ah, le fameux nous. Nous, quand nous parlons de nous, c'est nosotros o nosotras dans le contexte pluriel. Donc, il y a plusieurs. Donc, nous avons nous avons cherché le cinéma. Nous avons le temps de nous amuser. Voilà. D'accord? Donc au pluriel. Mais quand on utilise le on, le fameux on, on, c'est aussi une traduction comme nous. D'accord? En espagnol. C'est aussi nous, mais comme un groupe, comme un élément. Par exemple, on va au cinéma. On peut dire aussi, nous allons au cinéma. Mais on va utiliser plutôt le on, comme un seul groupe. Donc, comme c'est un seul groupe, un élément, donc c'est du singulier. On va utiliser, on va au cinéma. Par exemple, si je suis avec des amis, quatre amis, Je peux dire nous allons au cinéma, mais aussi je peux dire on va au cinéma. C'est la même chose, d'accord? Mais il ne faut pas confondre. Hein, le nous, c'est avec le pluriel. Si j'utilise le on, je dois utiliser le singulier. Ça va? Voilà. La suite. Donc l'utilisation des indéfinis un, un pour le masculin, une pour le féminin et des pour les pluriels masculin et féminin. D'accord? Ou le d apostrophe quand il se trouve devant un adjectif, par exemple, hein? Vous pouvez utiliser le de ou devant, oui, le de. Ça va? Et ici, l'utilisation du partitif. Donc, nous avons fait les indéfinis rapidement. Le partitif, comme dit bien son mot, c'est une partie de quelque chose, c'est bien des articles partitifs, de là pour le féminin, du pour le masculin, de là pour le féminin, tout ça au singulier, et quand c'est au pluriel, c'est des. D'accord? Attention, quand le mot commence par une voyelle, il faut mettre de L apostrophe. Hein, tant au masculin comme au féminin. Donc il y a quatre partitifs du, de la, des et de L apostrophe quand c'est un mot qui commence par une voyelle. D'accord? Ça va? Passons à l'autre page pour essayer de tout voir. On est seulement à l'unité 2. Donc, maintenant, l'utilisation des prépositions de lieu ou prépositions de localisation. C'est ce qu'on a fait un gros travail dessus aussi pour dire quelque chose qui se trouve devant, derrière, en face, à droite, à gauche, au fond, en bas, en haut, dans, à l'intérieur, à l'extérieur. D'accord? Vous rappelez? À la surface, au loin, tout près, près, proche. Vous rappelez qu'on avait fait ces éléments-là? C'est ça les prépositions de lieu. Donc ce sont des prépositions qui vous permettent de dire que quelque chose se trouve à un endroit bien précis. D'accord? Donc, ce sont aussi des éléments que vous devez pouvoir les utiliser. D'accord? Ça, nous l'avons vu aussi. Page suivante. Ce sont les exercices. Avant, on va un peu avancer. Ça, c'est les exercices. Oui, encore des exercices. On passe à l'unité suivante. Unité numéro 3. Donc ici, encore une fois, les dialogues que nous avons vus ensemble, nous avons répondu aux questions. Travail phonologique, la différence entre la O et la O. La on. O. O et on. Hein, d'accord. La on et la O. Encore une fois. D'accord. Donc, une L, celle-ci, c'est la O, ouvert. Donc, je fais une circulation labiale, mais orale, évidemment, comme il est bien écrit, labiale, orale. D'accord? Donc, je fais tout ça avec la bouche. O. Donc, gauche, go. Oh, c'est ouvert, hein. Je laisse ouvert ma bouche. Gauche. Beaucoup. Métro. Je n'ai pas d'autres exemples pour l'instant. Mais bon, c'est des exemples que je voudrais. Tandis que l'autre, c'est la nasale. La on. On qu'on fait avec la bouche Et aussi labial, avec les lèvres, évidemment, je fais un rond, mais ça sort l'air par la bouche et par le nez. On, Léon, allons, concorde, continuer. D'accord? Tout ça, ce sont des sons qu'il fait nasal avec le nez et la bouche. L'air sort par là, mais l'importance de la bouche en forme de rond. Tandis que l'autre, c'est O, c'est juste labial, un O, mais ouvert. D'accord? Ça, nous l'avons vu, nous l'avons vu, nous l'avons vu. D'accord? Continuons. Grammaire. Nous avons vu le verbe terminé en ER. Oui, le présent des verbes terminés en ER. Je vous ai raconté, je vous ai dit que les verbes se divisent en trois groupes, trois grands groupes. Les verbes terminés en ER, les verbes terminés en IR et les verbes terminés en RE, DRE, OIR. Donc, on avait dit que c'était des verbes, les premiers, ER régulier, après c'était des semi-réguliers, les IR, et enfin les autres, ce sont les verbes irréguliers. D'accord? Et vous rappelez que je vous avais donné plus ou moins une proportion, plus ou moins de quantité de verbes. La plus nombreuse, c'est les verbes ER. Il y a plus de 8000 verbes en ER. Après, je vous ai dit que les verbes IR, il y en avait tout près de 2000. Et après, les verbes irréguliers, il y en a tout près de 4000, 4500, plus ou moins. En total, il y a 15 000 verbes en français. Donc, les verbes ER, ce sont les verbes les plus réguliers. Donc, nous avons vu les verbes réguliers. On a dit que ça se faisait à partir, si vous vous rappelez, je vais vite faire un verbe régulier. Donc, aimer, par exemple, aimer. Je l'écris en bleu parce que ça, c'est la partie radicale. La terminaison ER, là, ça c'est la terminaison. Je vais mettre T. Terminaison. Ça, c'est le radical. D'accord? Et qu'est-ce que je faisais pour faire le présent? Je prenais le radical, IM, et je mettais la terminaison du présent. Là, au présent, je mettais E. Quand c'était je, ES, quand c'était tu, E, quand c'était il, elle, on, au pluriel, nous, ONS, vous, EZ, et il, ENT. C'est un E. D'accord? Et ça, la IM se répétait tout chaque fois. Donc c'était facile, il fallait mettre juste le radical, trouver le radical, et puis mettre la terminaison du présent. Ça va? J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, et il aime. Voilà. Et je peux le faire avec tous les verbes en ER, quasiment tous. Tous se font de cette manière-là, radical, et puis je mets la terminaison du présent. Ça va? Donc, je ne veux pas dire que tous se font de la même manière, mais la grande majorité se fait de cette manière-là. Il y a quelques exceptions, mais il y en a très peu. D'accord? Après, la forme négative. Comment vous faites avec la forme négative? Vous rappelez, pour faire la forme négative, vous pouvez mettre ne au milieu, le verbe et pas. Ça va? Ne pas. Voilà. C'est comme ça que je fais la négation. Donc, je n'aime pas, parce que ça commence par une voyelle. Tu n'aimes pas. Il n'aime pas. Nous n'aimons pas. Vous n'aimez pas et il n'aime pas. Ça va? Et voilà, vous avez fait la négation. Et si je veux faire avec la forme, si je veux faire avec la forme interrogative, alors je fais est-ce que, le est-ce que, et alors je fais est-ce que j'aime, est-ce que tu n'aimes, est-ce qu'il aime, est-ce que nous aimons, est-ce que vous aimez, est-ce qu'ils aiment. D'accord? Quand j'utilise le est-ce que, sujet, verbe. Vous rappelez. Parfait. Rassure. Ici, il y avait juste un petit problème, c'était qu'il y avait une petite inversion dans ma page, mais ça fait rien. Donc, on parlait des verbes particuliers. Je vous ai dit que quasiment tous les verbes au présent avec les verbes ER se font de la manière suivante. Radical plus la terminaison. Mais il y a certains qui changent un tout petit peu. Quels sont-ils? Les verbes, par exemple, terminés en ELER. Bien? Ceci. Ou ETER, comme celui-là. Ou celui-là. Regardez. On fait le radical, mais on ajoute un L en plus. Pourquoi? J'appelle, tu appelles, il appelle. Parce qu'on ne prononce pas la terminaison finale. On ne la prononce pas. Je dis j'appelle. Je ne dis pas j'appelle-le. Donc, comme je dis j'appelle, donc il faut redoubler la L, mettre un deuxième L. Tu appelles la même chose, je dis pas tu appelles le, on dit j'appelle, double L. Il appelle, double L. Nous appelons, appelons, la ONS se prononce, on prononce on, alors il faut juste un L, un seul. Vous appelez la même chose, appeler, on entend la dernière syllabe. Donc, un L. Et ils appellent au pluriel. La ENT ne se prononce pas. On dit ils appellent. Donc, on n'entend pas. Il faut redoubler la L. La même chose avec jeter. Je jette. Tu jettes. Il jette. Bien. Vous voyez bien qu'on n'entend pas la finale. Donc, on doit mettre deux T. Jetons, jeté, on entend la finale, donc un seul T. Et il jette, évidemment, on n'entend pas la ENT, on n'entend pas, on dit il jette, donc on fait double T. Enfin, il y a une petite exception avec acheter. Ici, achète, achète, achète. J'achète, tu achètes, il achète. Acheter se fait avec un accent grave. Vous voyez l'accent grave? Parce que malheureusement, on ne prononce pas la syllabe finale. Alors, achète, on met un accent. On ne met pas un deuxième T. Non, on fait un accent. D'accord? La même chose avec nous achetons. Achetons, on entend la finale. On ne met pas d'accent. Vous achetez. On entend la finale, on met pas d'accent. Et ils achètent, évidemment, accent, puisque on n'entend pas la finale. On ne l'entend pas. D'accord? Voilà. L'impératif, c'est facile. Je l'avais fait, oula. J'ai fait autre chose ici. Les contractés. Oui, nous avons vu les contractés aussi. Bon, l'impératif se fait à partir du présent. On prend la forme tu, nous et vous. D'accord? Donc, par exemple, regardez, tu regardes, nous regardons, vous regardez. Mais l'impératif, on ne met pas le tu, ni le nous, ni le vous. On prend juste le verbe. Regarde, regardons, regardez. Et ce qu'on fait, c'est que les verbes qui terminent en er, on enlève le en tu. On enlève la S. On va dire regarde sans la S. Regardons, regardez, ça normal. Ça va? Voilà, ça se fait comme ça. Pour tous les verbes après, ça se fait de la même manière. D'accord? Tous les verbes terminés en ER, on enlève la S du tu. Attention, pour les autres verbes terminés en IR ou REOIRDRE, pour les verbes du deuxième et troisième groupe, là, il faut pas éliminer la S. On la maintient. D'accord? Ça va? Et pour les verbes être et avoir, avoir, être, il faut l'apprendre par cœur. Soit, soyons, soyez pour l'être et ayons, ayez. D'accord? Ça, il faut l'apprendre par cœur. Par cœur. Il faut faire des exercices. Ça va? Ça, c'est pour l'impératif. L'impératif. Quand on donne un ordre, un conseil ou un ordre, ça, c'est l'impératif. Un conseil ou un ordre. C'est souvent un ordre. Mais aussi, ça peut être un conseil. Les articles définis contractés, nous l'avons vu, ils se ressemblent à ceux des articles partitifs, mais ici, ce qu'on fait, c'est pour parler de certaines choses. D'accord? Alors, on les utilise selon le genre. Si le masculin, on va utiliser du. Si le féminin, on va utiliser de. Et s'il est au pluriel, des. Ça va? Hola, hola. Dis-moi.
Bien, ranger les tables.
Ah, d'accord.
Ça
Ça va? Je vous dérange pas ici. Je serai... Ça va, ça va. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est qu'en sachant que c'est du, de, la, des, ça c'est une première partie. D'accord? Des articles définis contractés. Il y en a d'autres qui se font à partir du pardon. Avec la O à la pardon, O à la et O. Ça va? Le O s'utilise à U, d'accord, pour le masculin. À la, on l'utilise pour les mots au féminin. Et O avec un X se fait pour le masculin ou féminin pluriel. D'accord? Donc, il y a deux types de définis contractés. Du, de, la ou de L apostrophe et des. Et pour les O, pour le masculin, à la ou à L apostrophe ou O à UX pour le pluriel. D'accord? Ça va? Et donc, ça dépendra évidemment, comme la plus souvent des cas, ce sont des de ou à, ça, on reprendra selon ça leur préposition, d'accord? Bien, je vous ai donné l'explication rapide, je ne peux pas donner beaucoup plus. Ce sont des exercices ici, donc il n'y a pas de problème. On va avancer vite. Donc ça, ce sont des exercices. On va essayer de sauter l'exercice 6. Moi, c'était passer à l'étape suivante. Va bientôt être l'heure de terminer. Donc, j'ai vraiment envie d'arriver au dernier exercice. L'unité 4, voilà. Donc, l'unité 4, c'est avec des... Avec les dialogues que nous avons vus ensemble, donc vous ne voudriez pas avoir de problème. Travail phonologique, nous avons vu la différence de consonnes, non plus de voyelles, des consonnes entre la B, B et la V. D'accord? Nous avons vu que A était labial, B. La B de B, beaucoup, ça se fait avec les lèvres. Et la V, vin, ça se fait plutôt avec la bouche, d'accord? La différence entre un et l'autre, c'est la labialité, c'est-à-dire la différence de l'utilisation des lèvres, d'accord? Je le fais très vite parce qu'il nous reste très peu de temps et je dois déjà passer à l'autre cours, à l'autre niveau. Donc, la grammaire, nous avons vu les verbes semi-auxiliaires, c'est-à-dire ce sont des verbes qui peuvent vous aider à formuler d'autres phrases, d'accord? Exemple, pouvoir, vouloir, savoir et devoir. Donc, nous avons vu ces verbes au présent. Et au présent, évidemment, ça devient un peu plus compliqué de les faire puisque ce sont des verbes du troisième groupe. Donc, il faut savoir les conjuguer. Donc, je vous ai donné un peu les idées ici. Et je vous ai dit pourquoi pouvoir était un verbe complètement irréguliers du troisième groupe, parce que si son radical est pour, hein, ici, vous vous retrouvez seulement avec le nous et le vous. Nous pouvons, vous pouvez. Et puis, il y a un deuxième groupe de radical, c'est le peut, je peux, tu peux, il peut. Et enfin, le troisième radical, peuvent, hein, avec la terminaison ENT au pluriel. Donc là, ça change. Vous vous rendez compte qu'il y a trois radicales, hein, trois radicales pour juste le présent. Si vous vous rappelez, les verbes en ER n'ont pas deux radicales. Ils ont juste un seul. C'est juste le radical du verbe. Et puis, on met la terminaison du présent. Ici, non, il y a trois types de différences. D'accord? Pour pouvoir. Donc ça, vous devez le savoir. Pour la forme vouloir, c'est la même chose ici, d'accord? Sachez qu'il y a trois aussi radicales. Je veux, tu veux, il veut. Le premier c'est veut. La deuxième c'est le voul de vouloir, évidemment. S'il a du radical du verbe. Et enfin veulent, d'accord? Donc il y a aussi trois radicales. Le savoir se fait plus ou moins de la même manière, mais là il y a deux radicales. Ce sont deux radicales. Il y a d'abord le radical de je sais, tu sais, il sait, la SAI. Et puis on retrouve dans savoir le savent, hein, de la radicale du verbe. Le savent se retrouve dans le nous, vous et il. Nous savons, vous savez et ils savent. D'accord? Donc là il y a deux radicales. Enfin, devoir, comme vous vous rendez compte, on retrouve encore trois types de radicales. Si le radical, normalement, c'est dev, qui se retrouve avec le nous et le vous ici. Ça va? Malheureusement, ici, à le je, tu et il y a un deuxième radical qui se forme en doit. Et enfin, un troisième radical qui se forme avec doivent au pluriel avec un V. Un présent. Donc, ça, il faut malheureusement l'apprendre. À quoi vous servent ces verbes? À pouvoir, comme je l'ai dit, former des phrases à partir de cela. Donc, nous, par exemple, nous pouvons chercher un dictionnaire. Donc, le pouvons aide le verbe chercher à donner une signification. Donc, ce sont bien des auxiliaires. Ils vous aident à former des phrases. Ça va? Donc ces quatre-là forment des phrases. L'utilisation de il faut plus un infinitif comme une expression de l'obligation. Nous l'avons vu ensemble, le il faut généralement va soit avec un verbe, soit directement avec l'expression. Il faut une carte, il faut manger la soupe. Donc j'oblige quelqu'un. Il faut une carte pour aller, par exemple, pour monter dans le bus, il faut une carte. Vous devez avoir une carte pour monter dans le bus, évidemment, puisqu'il faut payer. Ou par exemple, il faut manger la soupe si une maman demande à son fils qu'il doit manger sa soupe. Donc il faut manger sa soupe, c'est une obligation. D'accord? Le il faut implique une obligation. Vite, vite, vite. L'utilisation du pourquoi, de quelle heure est-il? Ah non, l'utilisation du pourquoi et de parce que. Exemple, pourquoi, c'est bien l'utilisation en français pour une question, pourquoi tu étudies ou pourquoi étudies-tu, par exemple. Et la réponse est parce que je dois me former. Exemple. Donc, le pourquoi en français, c'est bien une question. C'est bien le mot interrogatif, interrogatif, c'est bien un interrogatif, tandis que le parce que, c'est juste un élément d'explication. D'accord? Donc, ne confondez pas, parce qu'en espagnol, évidemment, il n'y a pas cette différence. C'est le même mot, porque. Donc, moi, ce que je vous dis ici, c'est que, ici, il n'y a pas de différence notable, au moins. Le pourquoi, c'est bien un mot interrogatif. Le parce que, c'est bien une explication, une cause. D'accord? L'utilisation de l'heure ici. Donc pour l'utilisation de l'heure, nous avons vu les nombres. Les cardinaux, nous avons vu les cardinaux. Il me semble que oui. Vous devez au moins savoir compter jusqu'à, pour dire l'heure, au moins jusqu'à 59, puisque jusqu'à 59 minutes, après 60, déjà, ça devient juste l'heure. Donc, 59, rappelez-vous, pour expliquer l'heure, d'abord la question, c'est quelle heure est-il? Et vous répondez par il est, et vous donnez l'heure. D'accord? Utilisation en Belgique au moins de l'heure de 1 heure jusqu'à 24 heures. D'accord? On n'utilise pas le AM au PM comme en Angleterre. Donc, l'utilisation de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 24. Quand il est 12 heures, on peut dire qu'il est midi. Et quand il est 24 heures, on peut dire qu'il est minuit. D'accord? Je le fais très vite parce qu'il reste très peu de temps pour que je termine. Et donc, des exercices. Ta, 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 ta. Je vais voir ce que je vais pas arriver. Voilà. Et l'unité numéro 5, la voilà. Ça, nous l'avons vu la semaine passée. Nous avons vu les personnages. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. L'utilisation phonologique. Je vous ai donné une page http://phonétique.free.fr où ce que vous avez dans ce site-là, toutes les activités sur la phonétique, sur les voyelles et sur les consonnes. D'accord? Donc, ce que je vous laisse tranquillement le faire chez vous. Vous avez des activités, vous avez une partie théorique et vous avez une partie, disons, didactique ou d'activité, ludique aussi. Donc, c'est assez facile de l'utiliser. Donc, passons à l'autre page. Nous avons vu les adjectifs positifs. L'interrogation d'abord, ça nous l'avons vu, on vient de le voir. Donc ce sont les mots interrogatifs, qui, que, quoi, dont, où, comment, combien, quand, pourquoi. Hein? Plus inversion sujet-verbe, n'oubliez pas que quand vous utilisez un mot interrogatif, il faut faire l'inversion sujet-verbe, sauf quand vous utilisez évidemment le est-ce. Les adjectifs possessifs, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, et pour le pluriel, nos voleurs. Ça, je vous ai dit la semaine passée qu'il fallait les apprendre. D'accord, ici. Donc, l'utilisation du verbe faire, qui est un verbe qui s'utilise énormément en français, surtout du point de vue communicatif, oral. On l'utilise souvent. Évidemment, il faut l'apprendre. C'est un verbe irrégulier, c'est-à-dire du troisième groupe, terminant RE. Donc, il faut savoir qu'il a des terminaisons, un radical différent. D'accord? Je fais, tu fais, il fait. Attention, nous faisons, vous faites. Attention, qui termine pas en EZ, en plus, qui termine en ES. Et il y a un T, et ils font. D'accord? Donc, ça, il faut vraiment l'apprendre par cœur. Ah, voilà. Je le fais très vite pour terminer. Voilà. Les prépositions, nous avons les différentes prépositions, de lieu, à, en, pour, par, dans, d'accord, quelques-uns, ou au, si c'est utilisé, et en cause et but pour, généralement. Les relations familiales, je vous conseille d'aller voir ça sur des sites internet, là il y en a plein, maman, mère ou papa, père, grand-père, grand-mère, frère, sœur, cousin, cousine, oncle, tante, neveu, nièce. Bon, là, vous devez voir la relation familiale la plus simple, hein, en trois générations, grand-père, parents, d'accord, les grands-pères, les parents et les enfants. Dans ces trois-là, vous devez avoir plus ou moins une bonne idée de ce que sont les relations familiales. Enfin, les nombres, les cardinaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai dit que jusqu'à 16, il faut au moins apprendre par cœur. Après, c'est juste l'unité, je veux dire, la dizaine avec l'unité. 20, 21, 22, 23, d'accord, vous voyez, c'est 20 et l'unité. La dizaine avec l'unité chaque fois. Les 40 aussi, 40 ou 30 ou 50, ce sera la dizaine avec l'unité. Attention, avec l'utilisation du, en fait, le 21 ou 31, 41, ça sera comme en espagnol, le 20 et 1, d'accord? Il n'y a pas un trait d'union, il y a plutôt un et, d'accord? Dans le reste, c'est tous avec un trait d'union. Ça va? Et voilà, nous sommes arrivés à la fin du cours. Bien, je vous laisse jusqu'ici. La semaine prochaine, ça sera déjà les examens. Bonne chance pour votre examen. Il vous reste une semaine de préparation. N'oubliez pas, donc l'examen, c'est soit le 26, d'accord, du 5, le jeudi, durant l'après-midi, ça va. Et enfin, la deuxième possibilité, ça sera le 28 du 5, le samedi, durant la matinée, le matin, d'accord. Donc, ici, je vais mettre après-midi. AP, ici, on va mettre plutôt la matin. D'accord? Donc, n'oubliez pas de m'envoyer votre réponse si vous le faites le 26 ou le 28. D'accord? À l'adresse que je vous ai donnée, je la répète, tutoria.frances@bruxellas.unet.es. D'accord? Bien, merci. Et très bonne semaine avant vos examens. Au revoir.